19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Chers amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque soir. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous en remercie infiniment. Effectivement, on peut le reconnaître que le standard explose depuis quelques jours. Et d'ailleurs, vous êtes tellement nombreux à nous appeler qu'il explose lui-même. Alors, vous savez quoi? On remet ça ce soir au 01 53 48 3000. Mais vous savez, avec simplement un fil conducteur de grâce, hein, vous le savez, c'est évidemment l'union, la paix, et puis surtout, c'est que voilà, on est embarqués tous ensemble et qu'il faut surtout ne pas se laisser embarquer évidemment dans la haine, ni dans la psychose, ni dans quoi que ce soit. Je tiens, vous savez, je fais rarement des commentaires, mais là, je vois que parfois ça dérape, je vois que parfois il y a des commentaires qui glissent tout doucement vers la haine. Et je vous prie de grâce, évidemment, de se contenir, mais surtout, n'oublions pas qu'on est, voilà, tous ensemble, on est des êtres humains et qu'on doit d'abord combattre tous ensemble en tant qu'êtres humains. Et le programme, au programme ce soir, ce que je vous propose, tout d'abord, c'est cette interview avec Maître Franck Serfati qui reviendra dans une poignée de minutes avec évidemment ses événements en Israël. On reviendra ensuite avec les débatteurs, ils sont très nombreux ce soir, avec le membre de Renaissance qui sera avec nous, avec un président de Banlieue Plus. Qui sera avec nous, puisque les quartiers populaires sont représentés ce soir, parce que beaucoup craignent l'importation de ce conflit, et on va en parler, on va prendre le temps d'en parler. Le porte-parole du MDC, et puis Jérôme Bonnet, qui est un journaliste. Voilà le programme que je vous propose, avec trois sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur la déclaration de Benjamin Netanyahou, on reviendra aussi sur ces images, ces vidéos, avec ces atrocités qui circulent sur, qui se déversent sur les réseaux sociaux. Est-ce normal? On reviendra, on en reparlera, on prendra le temps de décrypter cette actualité. Et puis on reviendra aussi sur un sujet brûlant, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, je poserai la question, est-il désormais isolé avec un grand point d'interrogation? Et puis surtout, aujourd'hui, beaucoup de personnalités politiques veulent sortir de la NUPES et puis veulent quitter la NUPES, mais s'interrogent sur l'avenir de LFI. Qu'il ne veut toujours pas reconnaître que le Hamas est un mouvement de groupe terroriste. Alors, on reviendra là-dessus, on posera les questions et on reviendra là-dessus. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et ah oui, j'ai oublié, pardonnez-moi. Et le billet d'humeur tout à l'heure à 19h50. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec Maître Franck Serfati. Bonjour, Maître.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, merci d'être avec nous Maître Serfati. Tout d'abord, je voudrais que je vous laisse réagir aux familles des otages qui supplient ce soir, il y a Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui fait une allocution à 20h. Il s'empare du micro ce soir pour parler aux Français. Et on a vécu tout cet après-midi ces familles qui sont venues répondre aux questions des journalistes depuis Tel Aviv, depuis Israël, pour parler des otages. Et un mot revient régulièrement, c'est celui de parler à Macron. Il supplie Macron d'intervenir et de faire en sorte comme si l'événement s'était déroulé en France. Je vous écoute.
Merci Adil. Traditionnellement, et j'ai toujours le bonheur, la fraternité, vous l'avez rappelé tout à l'heure avec vos mots, et puis le plaisir de débattre avec vous sans aucun texte, de façon totalement improvisée, avec questions-réponses, et puis vous m'aviez offert un billet d'humeur. Et ce soir, exceptionnellement, parce que l'heure est grave, vous venez de le rappeler avec vos mots, permettez-moi de lire un petit texte que j'ai préparé.
Je vous en prie, allez-y.
J'ai toujours gardé sur votre antenne, mon cher Adil, un ton enjoué, un propos qui se voulait délibérément fraternel, consensuel, positif et optimiste. À cette heure, je serais simplement pervers si je taisais l'insupportable effroi que nous avons ressenti, malheureusement pas unanimement, après les massacres en Israël, samedi dernier, jour de Shabbat, et Nouvel An juif, que d'aucuns ont qualifié de pogrom. Plus de 1000 civils, lâchement assassinés, femmes éventrées, violées, 40 bébés décapités, vieillards abattus, une centaine d'êtres humains enlevés par la force pour être séquestrés à l'intérieur de la bande de Gaza dans des conditions qu'on ne veut pas imaginer. Le conflit israélo-palestinien existe de longue date, réel et naturellement bipolaire. Mais comment justifier l'injustifiable? De tout temps, depuis la nuit des temps, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, Des guerres ont divisé les hommes pour des territoires, le pouvoir, les femmes ou la bêtise. Mais il existait les lois de la guerre. Samedi dernier, des barbares n'ont mené aucun combat. J'avais utilisé le terme d'animaux. Un animal tue pour manger ou se défendre. Eux ont commis les pires crimes par culture exclusive de la haine. À ceux qui s'exclament, et la cause palestinienne, elle ne saurait grandir ainsi et aboutir légitimement tant que ses dirigeants prendront cette direction, abominablement nuisible d'ailleurs pour le peuple palestinien lui-même qu'ils sont censés représenter. Aujourd'hui, Israël doit éradiquer le Hamas de la région pour son impérieuse survie et la protection des valeurs de la civilisation occidentale. Gageons que le monde ouvrira les yeux et que ce conflit n'embrasera pas les quartiers de France. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis, Martin Luther King. Adil, mon cher ami, j'ai toujours avec vous travaillé sur des opérations de fraternité, mais aujourd'hui, parce que vous m'interviewez au sein d'une radio qui s'appelle Beur FM, je dois dire à tous mes amis musulmans, à tous mes frères musulmans de France et d'ailleurs,
que
ces crimes, ce n'est pas l'islam. J'ai reçu depuis maintenant 5 jours, depuis samedi dernier, des dizaines et des centaines de messages de musulmans engagés. J'ai reçu des centaines de messages de docteurs de l'islam qui m'ont dit que ces crimes ne représentaient pas l'islam. Moi, ce que je peux faire ce soir, grâce à vous et par votre intermédiaire, par votre micro.
Et ils sont très nombreux à vous écouter ce soir. Donc, bien sûr, allez-y.
C'est dire aux gens qui nous écoutent, principalement la communauté musulmane, mais tous les autres, que le conflit...
Sachez, mon cher maître Sarfati, que depuis plusieurs jours, vous avez des de confession juive, des Français de confession juive qui nous appellent quasiment tous les soirs depuis le conflit.
Je sais bien, mais de toute façon, Adil, et nous le savons, nous en avons parlé plusieurs fois, vous et moi, à maintes reprises, avec des amis communs dans le cadre d'opérations véritablement de fraternité, ce conflit est extrêmement important. Moi, je conçois pertinemment que des musulmans, arabes ou pas d'ailleurs, considèrent que la cause palestinienne est la leur. Mais si véritablement ils veulent apporter un effort de paix là-bas, à 4 km de Paris, ce n'est pas par ce genre d'actes criminels qu'ils pourront apporter une contribution. Je voudrais également rappeler à la communauté musulmane en France qu'on croit savoir, et vous le disiez au travers de vos questionnements tout à l'heure, que des rassemblements violents seraient prévus demain à l'endroit de la communauté juive en France, ici. Ce comportement serait totalement lâche et inacceptable. Ce n'est pas par la violence, car je n'ai jamais vu, moi, en France, en Europe ou dans le monde, un juif incendier une mosquée, taguer une église, ou s'en prendre à un catholique, à un évêque ou un imam. Donc je crois qu'il y a un débat qui se pose. Vous le posez, vous, ce soir, de façon à la fois bilatérale, démocratique et contradictoire. Mais cette violence haineuse n'a pas droit de citer ici, en France, parce que ce problème, même s'il nous touche intellectuellement et viscéralement, il est à 4 km de chez nous et il sera réglé à n'en pas douter par les Palestiniens et par les Israéliens en temps et avec leurs moyens. En tout cas, ici, ce conflit ne doit pas être importé par la violence. Et puis, je le rappelais à titre liminaire tout à l'heure, j'ai toujours eu avec vous, à votre antenne, au sein de votre antenne et auprès de vos auditrices, auditeurs, un mot d'optimisme. Je souhaite et je prie fondamentalement que la paix arrive très rapidement en Israël et encore une fois qu'il n'y ait aucune tension ici en France et en Europe.
Vous avez raison. La paix prime, doit primer évidemment et je vous l'accorde. Merci pour ce mot, merci pour ces mots, merci aussi évidemment d'être intervenu sur l'antenne puisque je le rappelle, hein, vous êtes aussi un éditorialiste chaque semaine, hein, évidemment on retrouve votre billet d'humeur, rappelons-le à nos auditeurs, ils vous connaissent, hein, Maître Franck Serfati, et évidemment merci, vous serez reconduit encore cette année pour vos billets d'humeur, mon cher Franck Serfati. Merci infiniment d'être intervenu dans Les Informés, dans cette émission spéciale attaque en Israël. Merci, à très bientôt mon cher maître. Alors, d'abord je vais vous laisser répondre, je sais que vous vouliez répondre messieurs, je vous présente. Jérôme Bonnet, bonjour, journaliste.
Bonjour, bonjour Adil, merci de m'avoir convié.
Le porte-parole du UMDC, bonjour Gamal Abina.
Bonjour Adil.
Le président de Banlieue Plus, bonjour Nadir Kaya.
Bonjour à tous.
Je vous laisse répondre. Jérôme Bonnet, je sais que vous avez tous envie de répondre. Je veux juste, évidemment, je sais que vous étiez rongé par le fait de l'interpeller, mais c'était son moment. Maintenant je vous laisse. Jérôme
Bonnet. Non, il n'y a aucun problème, tout le monde a le droit de s'exprimer. Je souscris à chacun des propos que tu as tenu auparavant. On est dans une période d'hystérie, il faut absolument revenir à la raison. Et ça passe aussi par la vérification des informations que l'on donne à l'antenne. Monsieur Serfati, Maître Serfati, pardon, je partage à bien des égards son émotion, comment ne pas être horrifié par les horreurs qu'on a vues. Néanmoins, il a mentionné 40 bébés décapités. Visiblement...
Et vous êtes journaliste. On a, donc il y a la véracité de l'information.
Mais absolument, c'est mon métier.
C'est hein, votre métier.
Précisément.
Comme moi d'ailleurs. Donc on vérifie l'info.
Mais voilà, c'est ça. Visiblement, cette information, elle est pour le moins chancelante. C'est-à-dire qu'elle vient d'une journaliste de I24 qui a commencé par raconter ça dans leur lit, etc., avec force détail. Et puis, quand tout le monde a dit « Mais où sont ces bébés? De quoi parle-t-on » et que la parole lui est revenue, elle a dit « Non mais en fait, moi je ne l'ai pas vu, c'est ce que m'ont raconté des soldats israéliens. » Bon, c'est parole contre parole, mais on est en situation de conflit. En situation de conflit, on le sait, il y a une règle, tout le monde ment, c'est la foire aux intox. Pour les journalistes comme toi et moi, c'est un moment de grand péril, et il faut faire très attention à ce que l'on dit.
Sûr.
En propageant ce genre d'informations, qu'est-ce qu'on fait? On excite la haine vis-à-vis de musulmans, en l'occurrence. Hein.
Ou alors on instrumentalise.
Ou on instrumentalise, en effet. Et je pense pas que c'était l'intention du tout hein, de Maître Serfati. Mais il faut faire très attention à ça et être très rigoureux. Cette information des 40 bébés, à mon avis, elle n'est pas réelle.
Gamal Abina.
Je vais commencer par un détail insignifiant mais qui a son poids. Bon, Monsieur Serfati parle de religion, je vois pas l'intérêt d'en parler, mais on va y aller. Il parle de du Nouvel An, c'est la fête des Soukhot, c'est la fête des cabanes. Donc c'est pas du tout ce qu'il dit, effectivement. Il se trompe là-dessus, mais c'est pas grave. Ensuite, il dit les musulmans, j'en ai marre d'entendre ce terme. C'est pas une question religieuse. Je sais qu'il y a une obsession là-dessus, on veut mettre ça sur du religieux. C'est une question coloniale et post-coloniale et une gestion d'une population. Alors j'ai entendu une femme, j'ai eu l'occasion de fighter avec elle, pas très intelligente, une avocate encore une fois, qui m'expliquait, qui a expliqué devant Nadia Bek, elle avait bien massacré Nadia Bek, que je salue et qui est quelqu'un de très modéré.
Journaliste aussi.
Tout à fait, journaliste. Elle expliquait simplement que en Palestine, les Palestiniens sont soignés, sont éduqués, peuvent travailler. Bref, en gros, c'est le paradis à Gaza, selon elle. Sauf que, je lui ai posé la question, elle m'a menti, je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà été à Gaza? Oui, menteuse. Alors, je précise que c'est une juive marocaine, elle est de chez nous. Donc c'est une séfarade. Et elle a commencé à s'exciter comme rarement. Elle a commencé à prendre un ton méprisant, agressif vis-à-vis de Nadia Bey. Et quand moi je l'ai eu en face de moi, j'ai pointé quelques contradictions. Alors simplement de dire quoi? De dire que si c'était le paradis à Gaza, pourquoi elle prend pas Airbnb pour s'éclater dans ce petit coin de paradis? Pourquoi ces plages merveilleuses ne sont pas investies? Ensuite et surtout, rappeler une chose. Ça a été par Monsieur Serfati. Alors malheureusement, il a fait un dérapage gravissime. Juste, je confirme. Je conclue. Il a parlé. Là, on a des termes qui sont nazis quand même. Quand on y réfléchit, le dernier des salauds. Si c'est un monstre, on ne peut pas dire que ça n'est pas un être humain. Parce que déshumaniser même un criminel de guerre, c'est conduire à la destruction totale. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi? On a Gaza, il y a à peu près 2000 morts.
Il me reste une minute avant de...
Très rapidement.
Mais on va revenir là-dessus, attendez,
Gaza,
on est là pour ça. Nadir Kaya.
Non, ce qui a été dit, bon, j'entends certains propos, je peux le comprendre, mais là aussi, c'est un parti pris. Moi, j'ai le mien, Monsieur Serfati.
Mais chacun a son parti pris.
Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce que tu disais en introduction, c'est qu'il faut essayer de se retrouver les uns les autres, essayer de modérer les choses parce qu'on est dans un dans un temps.
Mais parce que ça peut péter à tout moment.
On est dans
c'est
un
ça,
temps
faisons attention.
Très
et
fort
aussi,
en termes d'émotion.
Et c'est aussi notre rôle avec Jérôme.
On est dans la responsabilité.
Vous aussi, vous avez une responsabilité,
oui,
Charles
Zellier,
sur
le
président
comme tous les médias, c'est
d'association.
Pour ça que moi, je suis...
Lui, il est porte-parole.
Oui, on a tous une part de responsabilité, mais malheureusement.
Oui, l'heure est inquiétante.
Oui, mais malheureusement, en tant que citoyen français de confession musulmane, quand je vois le traitement médiatique qui est fait en France, l'attitude de nos politiques qui ne voient que d'un œil ce qui se passe et qui cherchent à condamner toute opposition, bah ça me révolte. C'est pour ça que je me suis dit je vais peut-être venir ici porter une parole qui est, oui, qui est la mienne, mais qui correspond, je pense, à beaucoup. Je veux bien qu'on parle de justice, mais quand on parle de justice, il faut ouvrir les deux yeux.
Eh ben on va en parler. Vous savez quoi, je marque la première pause et on se retrouve tout de suite après, justement, avec Jérôme Bonnet. Mais il s'est excusé d'ailleurs, le représentant de Renaissance. Oui. Il est coincé. Il est coincé tout
dommage.
Simplement, donc c'est vraiment dommage, effectivement. Effectivement, Nabil Aitakash, du représentant du 93. On se retrouve tout de suite après et j'ouvrirai l'antenne parce que je sais que les auditeurs ont envie aussi d'exprimer leur opinion. 01 53 48 3000, allez c'est parti, le standard est ouvert.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h23, si vous venez de nous retrouver dans cette émission spéciale Attaquant l'Israël, on en parle ici même, et puis aussi on reviendra sur les images dans la bande de Gaza, avec Jérôme Bonnet, Gamal Abina, Nadir Kaya, jingle des auditeurs, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Avant d'ouvrir l'antenne, vous savez quoi, je voudrais juste souligner deux petits éléments qui sont pas des moindres. Gérald Darmanin demande donc l'expulsion immédiate des auteurs étrangers d'actes antisémites. On a noté plus d'une centaine d'actes antisémites en France depuis samedi dernier. C'est selon le ministère de l'Intérieur, surtout selon le ministre de l'Intérieur. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce monde, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui demande l'expulsion immédiate des auteurs étrangers d'actes antisémites. Bon, on va en parler. Comment peut-on éviter évidemment, savoir si... j'ai embolé, c'est compliqué quand même, là. Vous voyez bien, je vous ai dit, c'est un peu tendu.
Alors, si vous voulez, moi, je suis d'accord quand Gérald Darmanin dit « Toucher à un cheveu d'un juif français, c'est s'attaquer à la République ». Je suis entièrement d'accord avec ça. Tout à l'heure, Nadia parlait d'hémiplégie. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il n'ait pas les mêmes propos pour des Français musulmans. Parce que c'est exactement la même chose. Toucher à un cheveu d'un musulman français, c'est s'attaquer à la République. Alors, pourquoi on ne regarde qu'un côté, on parle que des attentes antisémites. Je crains, moi, qu'il y ait des actes islamophobes et je réprouve autant l'un que l'autre. Ce qui me gêne, en fait, c'est que les politiques devraient être au-dessus de la mêlée. Les politiques, ils nous représentent, c'est notre gouvernement. Macron parlera tout à l'heure. Il est président de tous les Français, en principe. En ne citant qu'une partie des possibles exactions, qu'on ne souhaite pas, il a l'air de choisir un camp. Et ça, c'est insupportable. Donc ça veut dire qu'il tourne le dos à 6 millions de musulmans
français.
Donc
ce soir, il est attendu.
Oui, et j'espère bien qu'il va rectifier le tir et qu'il parlera de tous.
Nadir Kaya.
Alors, j'entends ce qui vient d'être dit, mais j'ai l'impression que les gens découvrent le lobby sioniste. Aujourd'hui, c'est tabou. Même moi, on me dit « fais attention à ce que tu dis ».
Non, mais
on l'a déjà dit ici, la France est gouvernée par des lobbies, et beaucoup de pays le sont par des lobbies aussi dans le monde entier. Le lobby américain, on le dit naturellement, qu'il y a le lobby de l'arme, le lobby du pétrole qui agit, du tabac qui agit sur le gouvernement. C'est la même chose en France, simplement, on a historiquement cette peur. Pourquoi ? Parce que l'une des stratégies du sionisme et du lobby français, c'est d'amener cette peur et de ne pas aborder les sujets qui dérangent. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est toujours à double tranchant.
Il est pas fort, là.
Non, mais c'est toujours à double tranchant. Quand on impose une peur ou une violence aux Français, il y a un moment donné où ça se retourne contre vous. Même si aujourd'hui, dans les médias français, le lobby sioniste a imposé, parce que moi je suis quand même surpris par BFM, parce que BFM, c'est ce que je disais à Gamal, était quand même plus ouvert à la diversité que ne l'est CNews. Et là, depuis quelques temps, la diversité, moi-même je suis parfois invité à BFM, et je vois d'autres personnes qui sont issues des quartiers populaires ou de confessions musulmanes qui interviennent chez BFM. Mais là, depuis une semaine, j'ai vu pratiquement personne, j'ai vu exclusivement des gens qui défendre Israël. Et je dis, tant mieux, moi ça ne me dérange pas. Hein. C'est comme le problème de la représentativité des minorités dans les médias. Moi, ce qui me pose problème en tant que Français, c'est l'équilibre. Que des gens défendent Israël, très bien, tant mieux, on entend et comme tu dis, on essaie
vous
d'être raisonné, d'être intelligent.
Vous savez qu'on est très suivi.
Oui, bien évidemment.
Ah, mais je vous le dis.
Et
les programmateurs de BFM.
Il y a des Français juifs, il y a des Français musulmans qui vous suivent, des Français athées.
Et je salue même d'ailleurs Cyril Hanouna qui a très régulièrement.
Non, mais même Cyril Hanouna, j'ai fait un tweet. Bon, il a pas un message, il a pas répondu. Je peux le comprendre. Il doit être lui aussi dans l'émotion. Ce qui est important, c'est qu'on est quand même dans un pays extraordinaire en termes de valeurs universelles. Donc normalement, on doit tous les incarner en permanence. C'est très difficile parce que la France, c'est le pays de la déclaration. C'est pas vrai. C'est pas le pays
des droits de l'homme.
De la déclaration, ça serait effectivement, notamment en haut de la pyramide en termes d'exemplarité. On le sait très bien. Mais là, ce qui a été dit, c'est juste qu'un ministre de l'Intérieur dise celui qui touche un cheveu d'un juif touche à la République. Très bien, on est content, ça prouve qu'il soutient les juifs, mais on peut pas ne pas soutenir ou ne rien dire sur les autres communautés. On est un pays de communautés, même si certains ne veulent pas l'entendre. On est un ensemble, on est un tout constitué de différents citoyens, de différentes confessions, et il faut tous les ménager de la même façon parce que c'est ça.
Allez-y,
les valeurs de la France.
Je vais donner la parole à Abou parce qu'on a, vraiment le standard. Beaucoup d'auditeurs nous attendent.
La France ne reconnaît aucune communauté sinon la communauté nationale. Bizarrement, ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Moi, je dis simplement une chose. Bon, je suis très...
Non, ce n'est pas la France.
Non, c'est l'État.
C'est la laïcité et une partie de nos valeurs en termes de constitution.
La République française, c'est ça.
C'est
le concept de la République. Simplement pour dire quoi ? Pour dire que qui veuille défendre une communauté parce que, par excès de zèle, il y a un passé sale, c'est ça qui ne passe pas, c'est le passé. On n'a pas ce problème-là en Angleterre. Ce n'est pas une obsession. La France sait qu'elle a quelque chose de mauvais à cacher, donc elle en fait beaucoup. Par contre.
Ah, je suis désolé de te couper tout de suite, gamin. L'Angleterre a fait des atrocités, elle a des choses à cacher. Ils ont un rapport à l'immigration et à leur histoire qui est complètement différent.
Ça n'a rien à voir. Je parle des Juifs en Angleterre. Ils n'ont jamais été torturés, massacrés ou déportés. La question juive en France, c'est une question qui est très ancienne. Ça commence à Drummond, ça s'est continué en 40. C'est ça la problématique. Maintenant, il faut comprendre une chose, simplement. C'est que quand on essaie de distinguer les uns des autres, c'est qu'on a un truc à cacher, qu'on essaie de se faire pardonner. Il faut comprendre une autre chose, c'est que ce conflit est né en France. Je le répète régulièrement parce que les gens ont oublié. Les accords Sykes-Picot, ça a été le partage du Moyen-Orient et la création d'un futur foyer national juif. Ça, c'est encore l'histoire. Je reviens pas là-dessus. Mais il faut comprendre une dernière chose. Cette façon de vouloir ethniciser et surtout mettre un caractère religieux au débat ne tient pas la route. La question sioniste en Palestine est une question politique parce que Theodor Herzl n'était pas un croyant.
Là-dessus, c'est la définition du sionisme, c'est une idéologie.
Je vais encore plus loin.
Politique.
Quand vous lisez,
basé sur des éléments religieux.
C'est pas le fondateur, c'est l'idéologue.
Exactement l'idéologue.
Je te coupe encore une fois.
C'est important de rappeler.
Il faut que je vous l'antenne, s'il vous plaît.
C'est important de rappeler ça.
Allez-y.
Theodor Herzl disait une chose qu'on entend aujourd'hui maintenant et c'est très intéressant de l'entendre. Il disait nous. Les juifs d'Europe, parce qu'ils voulaient pas les arabes. Hein. Les juifs arabes, ça l'intéressait pas. Nous devons aller au Moyen-Orient pour éduquer ces barbares. Parce que nous sommes l'avant-poste de la civilisation face au monde. Alors, il appelait ça asiatique à l'époque. Le monde arabe.
Mais c'est toute l'arrogance du colon, quoi.
C'est exactement ça. Donc, quand Theodor Herzl dit Européens ça dans son l'État juif, son livre, il dit réellement, nous sommes les dominants, la race supérieure. Et là-bas, il y a les races inférieures. Il le dit avant les nazis.
S'il vous plaît. Je voudrais qu'on, je vais ouvrir l'antenne. Dépassionnons un peu tout ça. Karim du 93, quelle ville du 93? Bonsoir Karim. Karim?
Allô?
Oui, bonsoir, on vous entend très très mal, oui. Karim.
Excusez-moi, oui.
Allez-y, on vous écoute, vous nous appelez de quelle ville, Karim?
Tremblay en France.
Allez, on vous écoute, bienvenue.
Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vos excellents invités.
Merci.
Excellent, parce que par rapport à mardi dernier, vous avez eu un souci avec le standard, hein, j'ai essayé d'appeler.
C'était impossible de nous joindre, je vous le dis tout de suite, le standard a explosé. Voilà.
J'avais compris que c'était impossible. Par contre, derrière mon poste radio, j'étais bien énervé parce que j'entendais des bêtises dites par le nom de la personne qui représentait la communauté, israélienne, je sais pas, peut-être, ou sioniste, j'en sais rien. Face à une jeune, qui s'occupait, je crois, à l'association PEPS, il me semble.
Oui.
Voilà. Donc, la pauvre, elle était submergée par les agressions faites par cette personne. Et cette personne-là a dit des bêtises sur les accords d'Oslo, en parlant d'histoire, soi-disant qu'il connaissait l'histoire, qu'on aurait donné 90% du territoire palestinien à l'OLP à ce moment-là.
C'est faux.
Personne ne l'a contredit, malheureusement. Voilà, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Gamal ou Jérôme pour essayer de rectifier un peu le tir. Et là, j'entends encore M. Sarfati tout à l'heure parler de que, soi-disant, aucun juif n'aurait touché à des musulmans en Palestine. On croirait. Je ne sais pas, il faut quand même nous rafraîchir la mémoire. Sur l'attentat qu'il y a eu, je crois que c'est à...
Non, Palestine. Attendez, Palestine.
Palestine. Gamal Abidine, Gamal Abidine souhaite échanger avec vous. Karim, s'il vous plaît, juste un peu de...
Oui,
Karim, il y a Gamal Abidine qui veut échanger avec vous.
Ah bon, on va être très précis. Oui, quand il dit ça, il ment évidemment, d'abord parce qu'il oublie Deir Yassine et tous les massacres en Palestine, mais on met ça de côté. Baruch Goldstein, qui était un idéologue d'extrême droite, a fait un attentat à Hébron, dans une mosquée. 29 Palestiniens en prière, de dos évidemment, c'est un héros. 29 morts, 125 blessés. Voilà la logique de ces hommes qui soi-disant sont les humanistes. Aujourd'hui, rappelons toujours qu'Israël est dirigé par l'extrême droite. Je trouve choquant que personne ne pointe du doigt qu'un type de gouvernement de malade mental ait dit les Arabes et les Palestiniens sont des animaux. Il l'a dit haut et fort, il était des animaux. Non, de l'industrie.
De la défense,
il vient le dire. L'industrie l'avait dit il y a encore un an. Il était refusé dans toutes les capitales parce qu'on savait que c'était un extrémiste de droite, un violent raciste. Exactement. Donc il faut se rappeler que lorsqu'on parle de ces gens-là qui ne voulaient pas la paix, jamais une seule fois Israël n'a proposé la paix. Les Arabes, 4 fois. 77 avec le camp de Camp David. Ensuite, il y a eu la paix de 93 forcée. Israël n'en voulait pas. C'est les Américains qui ont forcé Israël. Ensuite, 2002, le plan de paix arabe, les territoires contre la paix. 2007, à nouveau, Israël systématiquement refuse les plans de paix.
Gamal, à ça, tu peux rajouter qu'aujourd'hui, l'État d'Israël ne veut pas d'État palestinien. Il ne veut pas d'État palestinien. Donc quand il fait croire au monde entier qu'ils sont pour les négociations, c'est totalement faux. Ils font perdre du temps aux gens qui sont sincères et qui pensent ce qu'ils peuvent entendre de la part du gouvernement ou des représentants israéliens. Pendant ce temps-là, les colonies continuent.
Non mais, merci Karim. Nadir, Karim, attendez s'il vous plaît. Oui, Karim.
Oui, juste pour je suis complètement d'accord à ce que vient de dire Gamal. Et comment dire, moi, ce qui me choque, enfin comme vous d'ailleurs, je crois que vous l'avez dit, c'est le traitement médiatique qui est fait.
Kaya qui parlait de ça, oui.
Mais c'est dire Kaya qui parlait de ça. Le traitement médiatique qui est fait, qui est fait que d'un seul côté, et malheureusement, moi, je déplore, moi, on va dire, les morts civiles qu'il y a eu. Évidemment. Mais n'oublions pas que ce sont des combattants qui combattent pour leur liberté depuis 70 ans.
Donc, ce que vous dites combattant, effectivement, c'est faites référence au Hamas.
Le
Hamas qui est un groupe terroriste.
Français de terroristes, je le rappelle. On a qualifié les combattants du FLN de terroristes.
Il ne faut pas tout mélanger. L'histoire du fils, on ne peut pas faire la comparaison.
Ils vont retrouver une liberté. Quel est leur moyen? Dites-le-moi. Est-ce que c'est en restant, en se taisant, ils seront tués? En se battant, ils seront tués?
Alors, on vous répond. Attendez, Jérôme Bonnet. Il y a Jérôme Bonnet et Gamal Abidine. Merci Karim d'être intervenu, parce qu'on a beaucoup de monde, il faut que je libère le... Mais il va vous répondre, Jérôme Bonnet et Gamal Abidine. Jérôme Bonnet.
Non mais, il faut faire très attention. Encore une fois, je le redis, on vit une période particulièrement sensible. Les gens sont dans un état de nerfs pas possible, et il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. La résistance... Alors oui, c'est vrai, on a l'habitude, toujours, de discréditer son adversaire en le traitant de terroriste. Ça, vous avez raison. Sauf que, à ma connaissance, la résistance française, comme l'IRA ou comme l'ANC en Afrique du Sud, ne s'est jamais attaquée à des vieillards, à des femmes, à des enfants. Il faut quand même, Karim, dire les choses par leur nom. Quand on fait des choses comme ça, effectivement, on se livre au terrorisme. Alors, comment ils en sont arrivés là? Ça, c'est une question intéressante. Comment un homme peut arriver à un point de désespoir où il commet des actes pareils? Il y a vraiment des questions à se poser là-dessus. Mais on peut pas dire que tuer des femmes, des enfants, des vieillards, c'est de la résistance. C'est pas possible, c'est pas audible.
Et merci de le rappeler.
Sabra et Shatila, femmes, vieillards, enfants qui ont été massacrés par Sharon. Donc rappelez, là c'est une armée qui le fait, donc on dit que c'est bien, c'est une armée. C'est
pas du tout.
Non, je parle pas de ça. J'ai entendu une sioniste me dire, une armée le fait, c'est normal. Maintenant, je peux raconter une histoire très courte mais importante, pour vous dire un peu le poids de l'histoire. Est-ce que vous connaissez un personnage qui est très célèbre dans les histoires, qui s'appelle Hershon Greenspan? Personne ne le connaît, j'imagine. Hershon Greenspan.
Moi, ça me parle pas.
Alors, Hershon Greenspan, c'est un jeune juif polonais qui, en 38, pour attirer l'attention du monde, a tiré sur le numéro 2 de l'ambassade d'Allemagne, Ernst von Rath.
Ah, si, ça me parle l'histoire.
Voilà.
Ernst
von Rath, c'est le numéro 2 qui va finir par mourir le 9 novembre.
Il y a eu un livre,
absolument. Le 9 novembre 38.
Je connais.
Lorsque
je
Ernst
connais
von Rath. Meurt,
plus de science.
Ce personnage.
Juste parce que j'étudie ça pendant 10 ans.
Non,
lorsque
c'est bon.
Ernst von Rath meurt.
Il y a un livre là-dessus, Jérôme.
Mais c'est important.
Très, très bien.
Lorsqu'il meurt, Ernst von Rath, les Français attrapent Greenspan. Il est mis en prison pour acte de terrorisme. Les Allemands disent c'est un terroriste. Qu'est-ce qui se passe? 2 jours plus tard, le 9 novembre, démarre la nuit du cristal organisée par l'État allemand. Il massacre 200 juifs, plus de 200 synagogues brûlées, tous les magasins.
Les commerces.
massacrés et les 15 000 juifs déportés dans les camps parce que ce juif-là, de 17 ans, je le rappelle, a voulu attirer l'attention du monde. Le monde s'en foutait à ce moment-là. Eh bien, il faut savoir une chose. Son acte terroriste, parce que c'était un acte terroriste, la définition, c'est qu'on a tué quelqu'un qui n'a rien fait, a conduit à ce que des Allemands, à ce que des juifs allemands soient massacrés. Donc, l'action du Hamas aujourd'hui est une action, effectivement, qui a un caractère terroriste, c'est évident. Et ça va conduire au massacre de milliers de Palestiniens.
Exact.
Est-ce que Greenspan avait raison quand il a tué le numéro 2 de l'ambassade? Il avait raison sur le fond, pas sur la forme. Les Palestiniens ont raison sur le fond, ça l'est dit, mais pas sur la forme. Et la conséquence, c'est que le criminel de guerre qui est à la tête de l'État israélien, avec toute son extrême droite, va massacrer les
Palestiniens. Je vais juste accueillir avant de faire la pause. Abou, bonjour de Paris, Abou.
Bonjour.
Vous ne quittez pas, Abou, vous savez quoi? Je marque juste une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes et je vous prends en direct. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et 19h42, bienvenue si vous voulez de le retrouver. Les auditeurs au 01-53-48-3000 avec cette édition spéciale. Avec Nadir Kaye, le président de Blanc Lupus, le porte-parole du MDC, Gamal Abina, et enfin le journaliste Jérôme Bonnet. Tiens, je vais accueillir Abou et ensuite on faut qu'on avance effectivement dans les sujets. Bonjour Abou de Paris.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue, on vous écoute.
Ben voilà, je tiens déjà à rappeler une chose importante. On parle du Hamas qui a fait son opération. On parle toujours de ça, mais on a tendance à oublier, encore une fois, qu'avant que le Hamas fasse cette opération-là, Gaza a été bombardé, n'a pas arrêté d'être bombardé depuis au moins un an, où on ne s'est pas vraiment soucié de ça. Ils n'ont pas arrêté de subir des bombardements. Et donc, il y a ça, les bombardements, et aussi la violation de la mosquée Al-Aqsa. Donc, comme on dit, quand on donne un coup de poing, on reçoit un retour.
Et c'est pour ça qu'ils ont appelé l'opération avec ça.
C'est là le problème, en fait.
Ouais. Tout simplement.
Ça ne mène nulle part.
Si Jérôme Bonnet.
Je comprends, excusez-moi, c'est Jérôme. Je comprends que ça puisse ulcérer des gens. Moi-même, ça m'ulcère. Sauf que œil pour œil, dent pour dent, ça fait juste un monde de borgne édentée. On peut pas résoudre les problèmes comme ça en remettant un coup pour chaque coup qu'on a reçu.
Le problème, c'est qu'Israël le revendique. Hein.
Oui, c'est le talion, c'est leur devise.
De talion. En islam, il n'y a pas de loi du talion.
Abou.
Il y a la justice à tout moment.
Non, on laisse finir Abou, s'il vous plaît. Abou.
La réalité, elle est très simple. Ça a commencé comme ça, d'accord. Il faut quand même expliquer les choses. Quand on regarde un film, si on ne voit pas le début, on ne comprend pas la fin. Ça, c'est la première des choses. La seconde, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même des Palestiniens qui sont, pour vous dire, je donne les chiffres de 2022, il y a 7000 Palestiniens dans les prisons israéliennes, 172 femmes, 882 mineurs. Et il y a 2409 détentions administratives. Voilà la réalité, c'est que le problème, c'est toujours la même chose finalement, c'est que les victimes deviennent des bourreaux et les bourreaux des victimes. Et une chose encore aussi qui est assez déplorable, c'est que dans les prisons, il y a des Palestiniens qui meurent. Les corps ne sont jamais restitués aux familles parce qu'il y a aussi des trafics d'organes. Ça, on ne le dit pas. Personne n'en parle. Et il y a aussi l'hypocrisie française qui est très, très grave. C'est le fait de deux poids, deux mesures, de considérer les Israéliens comme des êtres humains et considérer les Palestiniens comme des animaux. Parce que ce qui est grave en ce moment, c'est qu'il y a une espèce d'opération de communication à vomir, de déshumanisation des Palestiniens. Oui. Monsieur Abina pourra vous en parler. Il connaît le système de déshumanisation des êtres humains. Ça s'est fait en 40 avec les Juifs. Okay. Ils sont en train de faire la même chose avec les Palestiniens à l'heure actuelle. Et ça, c'est grave. C'est très grave parce que ça conditionne l'esprit des gens à se dire que les Palestiniens, si on traite d'animaux, de terroristes, on passe son temps à dire que c'est des animaux, des terroristes, à force de répéter ça dans les esprits, ça rentre dans la tête des gens.
Merci.
Et à un moment donné, on finit par banaliser des massacres qui vont avoir lieu, parce qu'il ne faut pas se leurrer.
Abou,
ce qui va se passer, il va y avoir des massacres.
Merci d'être intervenu, mon cher Abou. Merci pour votre opinion.
Je vous remercie.
J'ai raccroché, pardonnez-moi, mon cher Abou. C'est allé trop vite, beaucoup d'auditeurs. Sur la déclaration de Benjamin Netanyahou concernant, il faut qu'on avance aussi, hein. Il déclare que tout membre du Hamas, il le dit, hein, c'est pas moi, c'est une déclaration qui date d'il y a quelques heures, que tout membre du Hamas est un homme mort. Qu'est-ce que cela vous inspire, Jérôme Bonnet?
Alors, moi je pense qu'il est foutu, déjà. C'est son champ du cygne, Netanyahou. Cette fois-ci, il est foutu. Ça fait mille fois qu'on le voit mort politiquement et qu'il rebondit. Non, mais là, le problème, c'est que, en fait, toute la droite israélienne maintenant est contre lui parce qu'il a échoué dans sa mission de protection, puisqu'il leur avait vendu du muscle et de la protection.
Je ne suis pas d'accord. C'était le cas les premières heures suite au massacre et à l'infiltration du Hamas. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une unité nationale qui ne s'est jamais produite en Israël.
Prenons les paris. On verra. Après la guerre, vous verrez ce qui va arriver à ce gouvernement.
Non, moi, je ne suis pas dans le futur, mais je parle par rapport au fait
que
médiatiquement, on lui a reproché ça par rapport à l'intrusion du Hamas en disant voilà, il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, son va-t-en-guerre.
Parle de la droite.
Son va-t-en-guerre a unifié même la gauche aujourd'hui israélienne dans sa démarche de détruire le Hamas.
C'est l'effet de l'émotion.
Quitte que coûte. C'est-à-dire que quand il tient ce propos-là.
La société israélienne, elle crie vengeance parce qu'elle est sous le coup de l'émotion.
Et
à vrai dire, si moi j'avais perdu un parent, un sœur, une frère ou le pire, un enfant, peut-être que je crierais vengeance aussi. Et pourtant, ils ont tort. Et effectivement, là, en ce moment, là, à cet instant précis, il y a beaucoup de gens dans la société israélienne qui veulent vengeance.
Il
y a
de l'intelligence
à revenir.
Là, je suis totalement d'accord avec Jérôme, mais je suis pas d'accord avec Nadir pour le coup. Là, l'effet de l'union nationale, c'est parce qu'il y a une guerre, c'est tout.
Oui. Dès que la guerre s'arrête, c'est ce que je viens de dire. Hein. J'ai dit que dans un premier temps, c'était pas le cas. On lui a reproché l'armée soit absente et donc l'infiltration du Hamas comme jamais. Dans un second temps, le va-t-en-guerre a unifié toutes les tendances israéliennes, même la gauche et l'extrême gauche, qui a toujours été contre Netanyahou et contre les colonies.
Ce premier temps est déterminant. Cet homme qui est un criminel de guerre, parce que c'est ce qui va arriver malheureusement, je l'anticipe, a vendu du rêve. Il a vendu.
Tu blagues ?
Non, je finis.
Il faut pas être naïf.
Cet homme,
il sera jamais considéré comme tel.
Cet homme,
Israël
a plus. Attends, tu peux laisser finir.
Non, mais je fais mon gamal. Désolé, parce que tu dis des choses aussi.
Je te laisse parler. Attends, laisse-moi finir.
Israël a plus de 2 ans résolution. Ils ont jamais été condamnés. Comment tu peux imaginer
avec les erreurs
qui va être condamné pour un crime de
guerre ? Il ne sera pas. Non, je dis que c'est un criminel de guerre. Je ne sais pas qu'il sera condamné. Pourquoi tu me dis qu'il sera condamné ? Ce que je veux dire, c'est que cet homme, donc, a échoué sur le sécuritaire alors qu'il a vendu du sécuritaire. Il a échoué, son fameux dôme n'a servi à rien, ça n'a pas empêché le passage de la myriade de roquettes. Ensuite, ses services de renseignement ont été en faillite. Et ensuite, et surtout, parce qu'il a dit aux Israéliens, vous n'aurez plus rien à craindre, je tiens le pays. Wow. Il ne l'a pas tenu, on lui en veut pour ça, parce qu'il a mis en fragilité l'État qui était censé être invincible. Absolument. Donc ces questions-là, elles se posent. Ensuite, et c'est le plus important, je rappelle tout de même que ce sombre personnage était censé protéger sa population. Il l'a mise en danger, on ne le parle pas assez de ça. Il l'a mise en danger. S'ils avaient négocié, s'ils allaient sur le terrain de la paix, s'ils avaient calmé un peu les tensions, ce ne serait pas arrivé. Donc il ne faut pas se tromper de combat. Il va devoir rendre des comptes à sa population parce que par son attitude imbécile, il l'a conduit à une catastrophe nationale.
0153483000, vous savez, nous continuons ce débat, on va en parler. Je vais accueillir, avant d'accueillir certainement Nabil du 94, je veux qu'on aille tout de suite écouter Pascal Boniface et le billet d'humeur. C'est parti pour le Quoi de Neuf.
Les informés. Les informés. Le Quoi de Neuf.
Comme chaque jeudi, vous savez, c'est le Quoi de Neuf. Et ce soir, c'est Pascal Boniface. Bonsoir Pascal Boniface.
Bonsoir Adil.
Bonsoir et bienvenue. Beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'appels aussi, mon cher Pascal Boniface. Vous êtes le patron et le fondateur de l'IRIS, mais également aussi géopolitologue. On vous écoute sur le conflit israélo-palestine.
Alors, il repart de plus belle, mais en fait, il ne s'est jamais arrêté, puisque bien avant les attentats du 7 octobre, il y avait de nombreux affrontements, des incursions de l'armée israélienne, et donc on peut dire qu'il marque une nouvelle extension, mais qu'il ne s'est pas arrêté. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut être cohérent sur cette affaire. Et donc, il faut d'abord condamner les attentats. On ne s'attaque pas à les civils. La guerre, c'est s'attaquer et faire la guerre entre militaires. On ne s'attaque pas à les civils. Donc, il faut, je crois, ma position, c'est de condamner les attentats. Mais ensuite, il faut également condamner la répression. Parce que si on doit interdire de s'attaquer à les civils, ça vaut autant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Une vie humaine n'a pas des prix différents. Et donc, il faut voir qui est cohérent dans l'affaire. Est-ce qu'il y a des gens, en fait, qui vont se réjouir ou, en tous les cas, ne pas condamner les attentats et qui vont condamner les représailles israéliennes ? D'autres qui vont condamner les attentats mais qui ne vont pas dire un mot sur les représailles israéliennes et être insensibles aux souffrances des Palestiniens ? Les seuls qui sont cohérents, ceux qui veulent, en fait, la paix entre les deux peuples, c'est ceux qui condamnent l'un et l'autre et qui ne font pas de différence sur la violation des droits humains. Et si je dois avoir une autre réflexion sur ce sujet, c'est qu'on a déjà beaucoup parlé, a-t-il, à votre micro de la guerre en Ukraine, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire qu'il y avait un nouveau fossé, c'était l'Ouest contre le reste, les Occidentaux contre les autres. Eh bien, à propos du conflit israélo-palestinien, à propos de la guerre là, entre le Hamas et Israël, ce conflit, ce clivage apparaît encore plus fort, puisqu'il y a d'un côté tous les pays occidentaux qui soutiennent Israël, qui défendent le droit d'Israël de se défendre, certains en disant « faites quand même un petit peu attention aux Palestiniens », d'autres en ne disant absolument rien de tout cela. Et puis, bah, dans le reste, bah, il y a des pays qui soit renvoient dos à dos Israéliens et Palestiniens, qui ne donnent pas la priorité aux Israéliens. Alors, il y a des exceptions, hein, l'Inde, les Émirats Arabes Unis, l'Argentine ont condamné les attentats du Hamas, mais les autres pays non. Et ils disent, bah, en fait, bah, voilà, ils disent, c'est toujours le même argument, les Occidentaux, c'est le deux poids deux mesures. Vous dites qu'il faut soutenir Israël pour des raisons morales, mais quand Israël bombarde des civils à son tour, vous ne dites rien. Et ce soutien inconditionnel passe de plus en plus mal et une source de clivage de plus en plus importante que l'on doit prendre en compte et auquel il faut faire attention. Et donc, en conclusion, les civils innocents sont les principales victimes. Et puis, Israël va essayer de détruire le Hamas, mais s'il peut détruire les infrastructures du Hamas, je doute qu'il puisse détruire totalement le Hamas. Et de toute façon, le Hamas n'est pas né de rien. S'il n'y a pas de solution politique, eh bien, cela recommencera. Et si le Hamas a une telle importance, c'est que Israël n'a pas négocié sérieusement avec l'autorité palestinienne et que ceux qui, en Palestine, voulaient négocier avec Israël n'ont pas obtenu les résultats qui auraient pu leur permettre de dire aux Palestiniens, vous voyez, par la négociation, on peut obtenir quelque chose.
Grand merci, mon cher Pascal Boniface, pour votre analyse, votre décryptage. Et à la semaine prochaine avec un autre billet d'humeur.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir partagé. Merci à vous, le Quoi de Neuf. C'est pas grave, c'était le jingle Quoi de Neuf, mais c'est pas grave. Messieurs, avant de rendre l'antenne, un petit tour de table en quelques secondes. Jérôme Bonnet.
Alors, vraiment, il faut...
Et je suis désolé pour Nabil et Hamid. Nabil et Hamid, demain, vous nous appelez et je vous prends à l'antenne. Promis.
oui, juste, effectivement, un dernier mot. S'il vous plaît, de grâce, gardons tous la tête froide. On vit un moment très compliqué. Ce qu'il faut évidemment éviter, par-dessus tout pour nous, Français, hein, c'est que ce conflit déborde en guerre entre communautés à l'intérieur de la France. Nous sommes tous Français. On n'est ni les uns ni les autres responsables de ce qui se passe à Gaza et il faut vraiment s'en souvenir.
10 secondes, vraiment s'il vous plaît, parce que sinon on va être coupé.
Simplement pour dire que si on veut vraiment sortir ce conflit, il faut faire en sorte de faire pression sur le gouvernement d'extrême droite israélien pour qu'il aille à la tête des négociations et qu'il fasse la paix enfin et qu'il arrête de jouer les malins.
Non, moi j'irais simplement merci à Beurre FM de nous inviter, de pouvoir quelque part apporter un peu de nuance dans un débat qui est complètement imposé par le lobby sioniste dans nos médias français. Ça, c'est regrettable.
Vous avez le droit à une clochette, Nadir.
Tu disais un truc intéressant, il faut être responsable. Nos médias ne sont pas responsables parce qu'ils ne mettent qu'en exergue toujours les mêmes individus. C'est pas acceptable, surtout dans ces moments de tension.
Merci à Gamal Abina, merci à Jean Bonnet.
Merci à toi, Adil.
À la semaine prochaine, si vous le souhaitez.
Inch'Allah.
On continuera de parler. Demain, d'autres intervenants, d'autres débatteurs influenceurs. Merci à Solal. Mylène Nenman à 20h, Vanessa à 21h. Quant à moi, demain, avec autant de plaisir, surtout. Mais vous le savez, qu'est-ce qu'on fait ? On ne lâche
rien, c'est aujourd'hui.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.